Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Aveau. Au micro, Christiane Blain. C'est toujours avec joie que je reçois le docteur Roussel. Aujourd'hui, nous allons évoquer le nourrisson et très exactement, nous allons évoquer le moment où le nourrisson commence après 6 mois. C'est bien cela, docteur Roussel. Alors, on vous écoute. Quelles sont donc les choses à remplir quand ce nourrisson a 6 mois?
Alors, à 6 mois, il y a une visite dont nous avions parlé à la dernière émission, mais nous n'avions pas eu le temps d'évoquer le sommeil du nourrisson.
C'est ça. Et le sommeil du nourrisson, c'est très important. Il semblerait que ce sommeil soit très important parce qu'il enregistre quand même beaucoup de choses, c'est ça?
Oui. Tout d'abord, en ce qui concerne l'environnement pour le sommeil du tout-petit, il faut proscrire dans la chambre où il va dormir le tabac, les sprays de produits d'entretien et avoir bien entendu une hygiène parfaite des pièces et différents ustensiles. Pour le sommeil, il est indispensable de coucher le bébé dans un lit adapté et de le coucher sur le dos. En effet, ça réduit de 70% les cas de mort subite du nourrisson quand il est couché sur le dos.
Ah oui.
Par rapport au ventre ou sur le côté.
Est-ce que justement, avant, oui, on couchait sur le ventre le bébé?
Sans dispositif pour maintenir le bébé sur le dos ou l'empêcher de bouger, et il ne faut pas mettre de drap ni de couette, mais un surpyjama ou une gigoteuse qui soit bien à sa taille.
Mais il peut dormir dans la chambre des parents?
Alors oui, il peut dormir dans la chambre des parents jusqu'à environ 6 mois. Après, c'est mieux qu'il ait sa chambre individuelle pour s'habituer à être seul. De préférence, la sieste se fera à la lumière du jour, en tirant les rideaux, bien sûr, et la nuit dans l'obscurité.
Donc la sieste, jusqu'à quel âge?
Après, ça, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Et on ne laisse, bien entendu, pas d'animal dans sa chambre.
Ah oui.
Voilà. Donc, à partir du 6e mois, les examens se succèdent pratiquement tous les mois. Bien entendu, en dehors des examens de surveillance, les parents doivent être attentifs et consulter en cas de fièvre, de toux, de gêne respiratoire, de diarrhée ou de vomissement, de perte de poids ou de comportement inhabituel. Donc ça, c'est entre 6 et 9 mois.
Donc alors, en fait, le nourrisson est très suivi.
Tous les mois jusqu'à 9 mois. Arrive donc le deuxième examen de santé donnant lieu à l'établissement d'un certificat qui, comme celui du 8e jour, va être envoyé au service de protection maternelle et infantile et ensuite anonymisé pour être envoyé au ministère de la Santé pour des fins statistiques. Cet examen est au 9e mois. 3 examens obligatoires, 8e jour, 9e mois, 24e mois.
Voilà, ça, ces 3 examens sont indispensables.
Qui donnent lieu à des certificats qui sont totalement obligatoires et pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, bien entendu. Cet examen comporte, comme toujours, un interrogatoire des parents sur le mode de garde, l'alimentation, le sommeil, les éventuelles affections survenues depuis la dernière visite et la vérification des vaccins.
Et si les parents n'ont pas fait tout cela, qu'est-ce qui se passe?
Là, après, c'est une question administrative à laquelle je ne peux pas vous répondre, mais il y a c'est des examens obligatoires, ils vont être recontactés. Donc on va vérifier le développement du bébé. À cet âge, il tient correctement assis, commence à tenir debout avec appui, a une ébauche de marche, attrape des objets entre le pouce et l'index et place bien sa tête pour vous regarder. Il va mesurer entre 64 et 75 cm pour un poids compris entre 7 et 10 kg. Le périmètre crânien se situera entre 42 et 48 cm. Donc avec la taille et le poids, on va calculer, comme chez l'adulte, l'IMC, l'indice de masse corporelle, alors qu'il n'est pas du tout les mêmes normes que l'adulte. Là, je ne vous donne pas de chiffres, ce serait très
rébarbatif. Mais il y a des normes quand même.
Il y a des normes et il y a une table. Et sur le carnet de santé, il y a des courbes de moyenne.
Donc les parents peuvent être affolés parfois si on n'approche pas ce...
Il ne faut pas s'affoler, mais ça permet de vérifier avec la courbe de l'enfant par rapport aux moyennes s'il est au-dessus de la courbe avec un risque de surpoids ou inférieur à la courbe, ce qui peut alerter sur un poids inférieur à la normale. Ce qui alerte surtout, c'est les cassures, c'est-à-dire l'enfant qui a une croissance ou une prise de poids très régulière par rapport à son âge et qui, d'un seul coup,
s'arrête,
diminue.
Ah.
La progression diminue en dehors de la moyenne. Ça, c'est des signes d'alerte pour rechercher ce qu'il peut y avoir comme pathologie en dessous.
Ah oui. Hein ?
Bien sûr, une auscultation cardio-pulmonaire avec une recherche de souffle cardiaque. Alors, à cet âge-là, on vérifie la bouche et les dents. En moyenne, à cet âge-là, il y a 4 dents. 2 incisives supérieures et inférieures. Chez le petit garçon, c'est l'âge où on vérifiera également la présence des 2 testicules. Et en cas de ce qu'on appelle une cryptorchidie, c'est-à-dire de testicules non descendus, il faudra prévoir une chirurgie pour le faire venir au bon endroit entre 9 et 12 mois.
Et ça arrive ?
Ça arrive de temps en temps, oui. Oui.
Donc bon. Vous avez vu des cas et ça s'arrange bien.
Sûr, avec une petite intervention chirurgicale, et c'est très bien.
Ouais.
Et ça permet surtout d'avoir un développement testiculaire normal par la suite.
Et oui.
Alors on vérifie également le développement psychomoteur. Donc nous l'avons déjà évoqué pour la station assise. Mais le développement psychique va rechercher donc des paroles. Alors des paroles, à cet âge-là, c'est des monosyllabes, des bruits. Il commence à prononcer quelques sons.
Oui.
Il réagit à son prénom. Il a peur de l'étranger, des gens qu'il
ne
connaît pas.
Donc à quel âge il réagit à son
prénom ? Vers 9 mois.
9 mois.
C'est environ, c'est une moyenne. Hein. Il réagit à l'absence de sa mère. Il est capable de faire les marionnettes, de faire bravo, de faire au revoir avec sa main, de jouer avec ses mains et de rechercher un objet caché. Donc par exemple, on va mettre son doudou sous une serviette, il va aller le chercher.
Ah oui.
Voilà. Alors un dépistage auditif qui va comprendre l'interrogatoire des parents. Est-ce que l'enfant entend bien ? Est-ce qu'il réagit à la voix ou au bruit ? Prononce-t-il des bruits en réponse ? Est-ce qu'il sursaute à un bruit ? Et en dehors de son champ visuel, on va parler faiblement pour voir la réaction de l'enfant. Et on pratiquera ce qu'on appelle le test de Moati, toujours en dehors de la vue des enfants. On va déclencher des bruits d'animaux. Vous savez, que comme les petites boîtes qu'on retourne et qui font un beuglement de vache.
Voilà.
Il y en a plusieurs pour avoir des fréquences différentes. Et on observera la réaction de l'enfant. Toute anomalie à ce test déclenchera une consultation ORL. À cet âge-là, bien sûr, on ne peut vérifier que s'il entend les bruits.
Eh oui, bien sûr.
On ne peut pas lui demander des précisions. Hein.
Oui.
Alors, dépistage oculaire, donc en fonction des antécédents familiaux et des problèmes, on vérifie les paupières, les globes oculaires, les conjonctives, s'il y a un strabisme ou pas, un nystagmus, c'est-à-dire les yeux qui battent tout seuls, sans raison de se déplacer.
Ah bon ?
Oui, ça arrive. Et un torticolis qui peut évoquer un petit trouble visuel. Et on va surtout rechercher des troubles du comportement avec un manque d'intérêt aux stimuli visuels, une absence de poursuite oculaire quand on bouge quelque chose devant lui, le clignement des yeux, des mimiques pauvres, une absence de sourire ou une errance du regard. Alors, on peut vérifier s'il y a une amblyopie. L'amblyopie, c'est la vision absente d'un seul œil. Donc là, l'enfant voit, mais il y a un œil qui ne voit pas. Donc pour cela, on va présenter un jouet à l'enfant ou un visage qu'il connaît bien et cacher alternativement avec la paume de la main un œil et l'autre.
Ah oui.
Si l'enfant réagit d'un côté et pas de l'autre, ça signifie qu'il y a une anomalie de la vision d'un œil. Et là, il faut consulter un ophtalmo rapidement. Donc, l'enfant, à cet âge-là, commençant à tenir assis, debout avec appui et capable d'attraper, se déplace par reptation ou à quatre pattes. Il faut donc insister sur la prévention des chutes. Ne pas le laisser seul en hauteur, ne pas le laisser sans surveillance dans son bain ou proche d'un plan d'eau ou d'une piscine. Protéger les prises électriques, les appareils électroménagers, les petits objets style piles, boutons, les cacahuètes, par exemple,
oui,
avec
les
risques
dangereux.
D'étouffement. Donc toutes ces choses-là, il ne faut pas le laisser seul à proximité, parce que là, à partir de 9 mois, il est capable de se déplacer et de les attraper. Faire attention à tout ce qui est produits chimiques, médicaments, les plantes toxiques, en particulier les baies. Nous en avions déjà parlé une fois il y a assez longtemps.
Et le muguet.
Oui,
muguet.
Par exemple.
L'eau du muguet, même.
Et ne pas laisser l'enfant seul avec un animal dont on ne peut jamais prévoir la réaction.
Ah oui, même si le chien qu'il garde.
Même s'il est très gentil et qu'il le connaît bien. En voiture, on utilisera toujours un siège homologué, bien fixé au siège de la voiture, et l'enfant correctement attaché.
Oui, en fait, c'est quand même une surveillance continuelle, et ne jamais laisser l'enfant seul.
Alors, de la naissance à 18 mois, donc pendant tous ces examens, il est indispensable de prescrire de la vitamine D en prévention du rachitisme.
Oui.
La dose varie avec l'alimentation maternelle ou artificielle, ça c'est le médecin traitant qui vous dira. Après 9 mois, donc là, bien sûr, on remplit le certificat de santé, toutes les cases,
oui.
Et avec les parents, et on l'envoie à la PMI.
Donc, et on l'envoie
à la protection maternelle et infantile, qui après, donc, l'enverra, elle, anonymisée au ministère de la Santé.
Ah oui, donc ça, tout enfant est en fait...
On rentre dans les statistiques. Bien entendu, la protection maternelle et infantile, pour déclencher une surveillance ou une protection de l'enfant, va avoir accès au nom des parents et à l'adresse.
Oui.
Mais à l'échelon national, pour les statistiques, il n'y a plus du tout de notion de nom.
Ah oui, là, parce que c'est l'anonymat.
Totalement.
Ah oui, c'est simplement pour des statistiques.
Totalement.
Ah oui.
Donc, après 9 mois, en dehors de problèmes de santé ponctuels, les examens de surveillance, ne donnant pas lieu d'ailleurs à des certificats à ce moment-là, seront un au 12e mois, un entre le 16e et le 18e, et arrivera l'examen du 24e mois qui, là aussi, fera l'établissement d'un certificat.
Alors ce certificat, c'est le certificat PMI.
Qu'on enverra, pareil, à la PMI et au ministère de la Santé, comme au 8e jour et au 9e mois,
ah oui.
24e. Bon, ensuite, il y aura des examens 3e, 4e, 5e, 6e année, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans, et il vient récemment d'en être ajouté un entre 15 et 16 ans.
Qui et c'est vraiment suivi.
Il n'existait pas avant. Là, je ne peux pas vous dire, parce que quand j'exerçais, il n'existait pas, celui-là.
Eh oui, c'est ça. Et on se demande si à 15-16 ans...
C'est conseillé, oui, c'est conseillé. Alors tous ces examens sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie et sont importants parce qu'ils permettent de faire du dépistage et de la prévention.
Oui, bien sûr.
Bien suivre la vaccination, l'hygiène alimentaire, ainsi que, et c'est important chez le grand enfant et l'adolescent, le dépistage des troubles comportementaux et commencer à parler des addictions, par exemple tabac.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que, justement, vous avez eu, vous, des patients qui avaient des enfants donc, qui avaient commencé à fumer et vous avez essayé de les en dissuader quels ont été les moyens pour vous?
Alors, on en avait parlé quand on avait évoqué le tabac. Les moyens de les dissuader, c'est pas simple. Il faut pas leur parler de maladies, ça, ils sont pas, ça les intéresse pas à cet âge-là.
Ils sont trop jeunes.
Mais on peut leur raconter un certain nombre de choses, c'est possible.
Par exemple.
Par exemple, aux petites filles, vous leur dites de repérer à l'école une maîtresse d'école ou un prof qui fume et qui regarde sa peau qui est très moche et pleine de rides. Ça marche bien.
Oui.
Les adolescents garçons, vous leur parlez des troubles de l'érection chez les fumeurs, ils savent ce que ça veut dire aussi.
Ah, oui.
Si vous leur parlez de cancer du poumon ou de la vessie à cet âge-là,
ils vont
sourire.
Oui, c'est ça. Ils se disent que ça, c'est pour les vieux et qu'ils ne seront pas touchés. Et est-ce que vous-même, vous avez eu, chez vos patients, des jeunes enfants qui commençaient à fumer
Vers 12-13 ans, c'est relativement fréquent, malheureusement.
Ah oui. Et vous êtes arrivé à leur expliquer est-ce que les parents ont insisté pour ça?
C'est pas les parents qui ont un rôle dans ce genre de choses, parce que l'enfant va écouter ou pas écouter. C'est plus, certainement, le médecin peut faire quelque chose, mais c'est beaucoup plus, à mon avis, et c'est fait, mais peut-être pas suffisamment, dans l'école ou en dehors de l'école, des discussions avec des gens qui peuvent leur expliquer en dehors de tout contexte familial.
Oui. D'où ça l'intérêt des médecins dans les écoles.
Oui, et puis surtout, il n'y a pas besoin de médecins pour ça. Hein. Ça peut être des éducateurs, ça peut être... Enfin, il faut en parler.
Il faut en parler. Eh bien, un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous écouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci infiniment, docteur Roussel.
Merci, Christiane Blain.